Bonjour tout le monde ce matin. J'espère que vous allez bien en cette matinée de l'Action de grâce, que la série qu'on a entamée il y a quelques semaines rejoint votre cœur, hein, le risque de donner. Est-ce qu'il y a un plus beau risque que de celui de donner? Ce matin, avant de terminer la série un peu, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelque chose de très important. Vous dire merci. Ça a été, excusez-moi, je suis un peu émotif ce matin. Ça a été difficile pour moi au cours du dernier mois. Vous savez, j'ai eu un accident de vélo, commotion cérébrale et tout ça. Ça, c'est rien, ça, ce bras-là, c'est pas grand-chose. Je suis étourdi un peu plus à chaque journée, mais ça va quand même relativement bien physiquement. Mais je voulais prendre la peine de vous dire merci. Vos pensées, votre soutien moral, vos soutiens dans la manière dont vous pensez, les beaux mots d'encouragement, ça nous a fait un bien énorme à moi et à toute ma famille. Autant mes enfants, qui voyaient un peu papa perdu parfois, autant maman aussi, ça nous a vraiment fait du bien d'être soutenus comme ça par notre église locale. Puis en cette matinée de l'Action de grâce, on voulait prendre la peine de vous dire simplement merci pour votre générosité à notre égard, ça a fait une énorme différence. Alors ce matin, c'est avec joie que je suis avec vous, simplement pour poursuivre et continuer la série qu'on a entamée sur comment qu'on avait déjà appelé la série il y a quelques semaines, le risque de donner. Et j'aimerais juste faire un petit rappel de ce qu'on a à peu près vu au cours des trois dernières semaines, c'est que le risque de donner, c'est d'une certaine manière, c'est ce qui caractérise à la base qui est Dieu et de la manière dont on peut définir sa générosité. Qui a pris un risque, pas dans le risque dans le sens qu'il ne savait pas ce qui arriverait. Dieu est souverain, il sait tout, il est omniscient, il savait ce qui arriverait, mais qu'en créant l'humanité, en créant en créant l'univers, et en donnant même la vie de son Fils, la vie si précieuse de son Fils sur la croix pour chacun d'entre nous, Dieu a pris une certaine dose de risque. En étant si généreux envers nous, en nous donnant tout ce qu'il nous a donné, il a pris le risque que l'humanité l'ignore. Il a pris le risque que l'humanité le méprise ou même le rejette. D'une certaine manière, Dieu a été courageux dans la manière dont il nous a tout donné, parce qu'il a relevé une certaine forme de danger. Pourtant, ça ne l'a jamais arrêté dans sa générosité envers nous, que ce soit à travers la vie qu'il nous a donnée, le temps qu'il nous accorde, l'écoute dans la prière qu'il nous accorde, l'attention, la paix qu'il nous donne à travers toutes ces choses extrêmement précieuses qu'il nous donne. Jésus-Christ et la personne de Dieu s'est montré non seulement d'une grande générosité, mais d'un grand courage. Et d'une certaine manière, ce qui a permis à Dieu d'exprimer sa générosité, de passer par-dessus les risques qu'il prenait, c'est que ce qu'il avait à nous donner était beaucoup plus grand que les risques qu'il pouvait courir. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui, et il y a plus de cela 2000 ans, et même depuis la création de l'univers, de nous exprimer sa générosité. Dieu a un trésor inestimable à nous donner afin de nous faire vivre près de lui et que sa générosité puisse déteindre sur moi. Est-ce que ce n'est pas un de vos rêves dans vos vies en tant que croyant que la générosité par laquelle Dieu a pris soin de vous puisse déteindre dans votre vie et autour de la vie des gens qui vous entourent, croyants ou non? Moi, en tout cas, c'est mon désir. Je ne sais pas si c'est un cas pour vous, mais moi, ça me préoccupe que la générosité de Dieu puisse déteindre sur mon âme, sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon souci, sur ce qui me préoccupe dans la vie. Et je pense qu'une des bonnes manières que ça puisse déteindre, c'est de voir qu'est-ce que Dieu nous a donné de si précieux pour qu'en même temps, ça nous rende aussi généreux que lui-même peut l'être. Et le texte que j'aimerais voir avec vous ce matin pour explorer qu'est-ce que Dieu nous a donné se situe dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17. Donc, je vais vous inviter tout de suite à tourner avec moi dans Jean 17, juste avant que Julie nous fasse la lecture, juste vous mettre un petit peu en contexte. Dans ce passage-là de l'Évangile de Jean, Jésus se situe dans une situation où est-ce qu'il est sur le point de se faire arrêter par les Romains. Il est sur le point de donner sa vie pour l'humanité, parce qu'il sait très bien que l'humanité ne peut pas être accepté par Dieu comme elle est en ce moment. Il doit donner sa vie pour le pardon de ses fautes, pour être capable de permettre la réconciliation entre Dieu et les hommes. Christ doit donner sa vie, doit payer un prix, doit prendre un risque. Et il sait très bien que ce risque-là va beaucoup le faire souffrir. Et à ce moment-là, il prend le temps de parler à son Père, qui est Dieu. Et voici ce qu'il nous dit dans les versets 1 à 9 du chapitre 17. Donc, sans plus tarder, je vais laisser notre sœur Julie nous lire soigneusement les paroles de ce texte pour que ce texte puisse tomber sur notre cœur et que l'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu nous a si généreusement donné.
Julie. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Jean, au chapitre 17, versets 1 à 9, édition Louis II. Jean, au chapitre 17, versets 1 à 9. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Merci, Julie. Le texte qui est devant nous, je pense que je pourrais peut-être pas lui trouver d'autres qualificatifs que admirable. Un texte profond qui nous parle à la fois de qui est Jésus, qui est le Père et qu'est-ce que le Père et le Fils qui est Jésus nous ont si généreusement donné, afin que ça puisse faire une œuvre en nous et que leur générosité puisse faire une spirale dans notre cœur, dans notre âme et que cette générosité puisse devenir également la nôtre, pas qu'on la garde comme dans un jardin secret, mais que ça puisse faire un effet en nous. Et c'est ce que Jésus prie. Il prie ici pour ses disciples. Et si on voulait résumer ici la pensée qu'on voit entre les versets 1 à 9, et même, je dirais, dans toute la suite du chapitre de Jean 17, je vous propose un peu le résumé suivant. D'une certaine manière, voici comment qu'on pourrait résumer le texte. En Jésus-Christ, Dieu nous a généreusement donné ses paroles et il s'est révélé à nous. Jésus prie donc que ses paroles se répandent en nous, autour de nous et par nous. Peut-être juste répéter la phrase juste pour qu'elle puisse rentrer dans notre pensée ce matin. En Jésus-Christ, Dieu nous a généreusement donné ses paroles, il s'est révélé à nous. Jésus prie donc que ses paroles se répandent en nous, autour de nous et par nous. Autrement dit, ce qu'on pourrait dire, c'est que Jésus ici, dans ce texte, s'attend et il prie pour que ceux qui ont reçu les généreuses paroles de Dieu, ceux qui les ont reçues, ceux qui les ont connues, ceux qui y ont cru, eh bien que ça produise quelque chose en eux. Et c'est ce que Jésus prie ici. À la fin du verset 9, on voit que Jésus prie pour ses disciples. Il ne prie pas pour le monde, il prie pour ses disciples, ce qui nous inclut. On va le voir un peu plus loin dans le restant du chapitre, mais on voit vraiment ici un souci que Jésus-Christ désire que la générosité des paroles de Dieu puisse faire une œuvre tout d'abord en nous. La première chose pour laquelle Jésus prie à notre sujet par rapport aux paroles de Dieu, c'est qu'il prie que les paroles de Dieu portent du fruit premièrement en nous. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, souvent Dieu est compris d'une manière un peu floue. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les gens autour de nous nous parlent de Dieu comme étant une puissance, un mystère, quelque chose qui est dans l'au-delà, mais qui est comme un peu nébuleux, qui peut agir, oui, mais non. Mais c'est comme vu comme Dieu est comme une puissance ou quelque chose qui nous dépasse, mais on ne nous présente pas souvent Dieu comme étant une personne. Beaucoup plus comme quelque chose de vague et de flou. C'est beaucoup plus acceptable pour des religions, par exemple, comme le bouddhisme ou le taoïsme, de voir Dieu comme étant quelque chose de au-dessus de nous, mais qui n'est pas une personne, mais qui peut agir. Eh bien, ce que Jésus ici dit, et ce que la Bible nous offre comme pensée à propos de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une puissance, un mystère, quelque chose d'abstrait. Ce qu'il nous dit, c'est que Dieu a donné ses paroles. Donc, Dieu, à la base, c'est quelqu'un. Il a donné des paroles à quelqu'un, Jésus-Christ, qui lui-même nous les a données. Donc, il y a une unité ici entre la pensée de Dieu et la pensée de Christ, où est-ce qu'il nous a généreusement donné ses paroles. Et comment il nous a donné ces paroles-là? Bien, premièrement, par la pensée de la parole de Dieu, la Bible. Dieu a inscrit sa pensée, toute son histoire, la manière dont il est intervenu dans l'histoire de l'humanité pour nous faire du bien. Eh bien, voilà, premièrement, la parole de Dieu, la pensée de Jésus-Christ, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Nous sommes devant la pensée progressive de Dieu et qui culmine vers la personne de Jésus-Christ. Telle est la pensée de Dieu, telles sont ses paroles, ce que nous avons dans sa Bible, dans sa parole à lui. Deuxième point de vue par rapport à la parole, c'est que Jésus-Christ lui-même a incarné cette parole-là parfaitement. Il l'a accompli parfaitement. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de ce qui est inscrit évidemment dans la parole de Dieu, mais on pense également à son Fils, au Fils que Dieu a donné et qui a incarné cette parole-là, comme nous dit le tout début de l'Évangile de Jean. Un des soucis de Jésus, c'est donc que cette parole-là qu'il est lui-même et que la pensée de Dieu qui est inscrite dans la Bible puisse prendre forme en nous. Jésus prie pour que les paroles de Dieu produisent un effet généreux en nous. Regardez par exemple ce que nous dit le verset 11 dans le chapitre 17. Le verset 11 nous dit « Père, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as envoyés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. » Un peu plus loin, verset 13, il dit, « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné, quoi? Je leur ai donné ta parole. » On voit ici très bien que, ici, la prière de Jésus, c'est que Dieu puisse les garder, puisse nous garder près de nous, que ceux qui croient dans ses paroles puissent être gardés par le Dieu Saint en son nom. C'est la prière de Jésus, et que les disciples et que ceux qui croient en ses paroles puissent demeurer près de Dieu. Ici, quand on parle de garder en ton nom, comme nous dit le passage, dans la pensée biblique, c'est très clair. Garder dans le nom de quelqu'un signifie toujours être gardé dans le caractère de quelqu'un, être gardé dans sa pensée. Et comment la pensée et le caractère de quelqu'un peut être formé plus que par ses paroles? Mon caractère, vous pouvez le connaître par les paroles que je peux donner, par les actions que je peux faire, mais également par les paroles que je peux donner. Donc ici, d'une certaine manière, ce que Jésus implique dans la pensée de « Père Saint, garde-les en ton nom », eh bien c'est « garde-les dans ta parole, afin qu'ils soient gardés dans ton nom ». On veut que cette parole-là et le désir de Jésus-Christ, ici dans sa prière, c'est « garde-les à ton nom, afin qu'ils demeurent un, comme moi-même, Jésus-Christ, je suis un avec toi. » Donc, le but de pourquoi Dieu nous donne généreusement ses paroles, c'est pour nous faire vivre près de lui. Que lorsqu'on aborde ses paroles, il y a un risque. Lorsque je prends ma Bible le matin de bonne heure, ou que je la prends l'après-midi ou en soirée, il y a toujours un risque. Et c'est que c'est les paroles que Dieu me donne, je puisse les lire d'une certaine manière, de manière mécanique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire votre Bible de manière mécanique? Un peu comme un robot. Ah, je vais lire ma Bible parce que Dieu me le demande. Ah, merci Seigneur. Et après ça, quel est le risque qu'on prend? On oublie. On néglige. On néglige ce que nous avons lu le matin parce qu'on ne s'en souvient même pas. On n'a pas pris la peine d'approcher la parole de Dieu comme une parole vivante, mais simplement des mots qu'on doit lire, mais que, bon, est-ce que c'est si grave que ça si je ne m'en souviens pas? Bien non, ce n'est pas plus grave que ça. Je vous donne un exemple. Quand j'ai eu mon accident, les premières personnes que j'ai rencontrées par la suite, c'est « Mais comment c'est arrivé? » Vous me le demanderiez ce matin, j'en ai aucune idée comment c'est arrivé. J'ai un blackout d'à peu près 30 heures où j'ai aucun souvenir de ce qui est arrivé. Je ne me souviens même pas qu'il y a une auto qui m'a frappé. Je ne me souviens même pas qu'est-ce que j'ai dit aux ambulanciers. Je ne me souviens même pas que j'ai parlé à des policiers. Je ne me souviens même pas d'avoir parlé à un neurologue qui essayait d'estimer. J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous raconter ce qui est arrivé. Je ne m'en souviens pas. Il y a un blackout. Maintenant, si quelqu'un à côté de moi peut s'intéresser aux choses spirituelles de Dieu qu'ils ne connaissent pas, un voisin, un parent, comment est-ce que je peux lui parler de ce Dieu-là que je connais si ses paroles n'ont pas un effet en moi et que j'approche sa parole simplement comme étant quelque chose pour lui plaire? OK, Dieu me demande de faire ça. OK, je vais le faire, comme ça je vais lui plaire. Mais Dieu ne nous a pas donné ses paroles pour que nous, on se rapproche de lui. Il nous a donné ses paroles afin que l'on vive près de lui et pas qu'on soit accepté. Il y a une très grande différence entre les deux. La parole de Dieu est à la fois et tout d'abord une grâce que Dieu nous a donnée. Voyez-vous la Bible et la personne de Jésus comme une grâce à laquelle Dieu vous invite à vivre près de lui? Ces paroles-là, nous dit le texte de Jean 17, nous donnent la vie. Elle permet de demeurer près de Dieu. Elle nous permet de demeurer en contact avec sa pensée, dans sa manière de voir le monde. Mais il y a également un risque, également, c'est de nous éloigner de cette pensée-là. Si j'approche les paroles de Dieu comme un robot le ferait, je prends le risque que cette relation-là demeure très, très froide, très, très indigeste. Et ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que ces paroles généreuses produisent en nous un autre effet généreux. Et cet effet généreux-là, c'est qu'on soit premièrement généreux envers notre propre cœur. Comment j'utilise les paroles généreuses que Dieu m'a données? Eh bien, comment je peux exprimer la générosité? C'est en étant premièrement généreux envers moi-même, en disant à mon cœur, voici la pensée de Dieu. Voici ce que Dieu a en réserve pour toi. Voilà ce qu'il veut faire de bien dans ta vie. Voilà sa manière de voir le monde pour que tu puisses t'épanouir malgré l'adversité. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole-là? Vas-tu parler à ton cœur? Est-ce que tu vas penser comme moi je pense? Est-ce que tu vas considérer ces paroles-là pour qui je suis vraiment? Ton Créateur, le Créateur de l'univers, d'être généreux envers nous-mêmes à travers la générosité des paroles que Dieu nous a lui-même données, par laquelle il a même donné son Fils à la croix. Évidemment, si on fait ça, si on aborde la lecture de la parole de Dieu et de la personne de Jésus, si on veut le faire d'une manière vivante, on prend aussi un risque. On ne peut pas donner sans prendre de risque, on l'a vu depuis le début de la série. Et si j'approche les paroles de Dieu de manière vivante et personnelle, il y a un autre risque. C'est que si je le fais, je risque de voir mon cœur beaucoup moins bon que ce que j'aurais pensé. Si j'approche la parole de Dieu de manière vivante, je risque d'être confronté. Je risque d'être bousculé. Je risque d'être inconfortable. Je risque de voir des espaces de ma vie que je préférerais garder cachés puis que personne ne voit. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu est parfaite et que ma vie et mes paroles ne le sont surtout pas. Alors la pensée de Dieu a pour but de transformer mon cœur pour qui il est, les pensées qui viennent de lui. Mais est-ce que ce risque en vaut la peine? Oui, je peux prendre le risque de lire ma Bible de manière mécanique et risquer, ne pas risquer de parler à mon cœur face à ce que Dieu veut me dire dans sa parole à travers la personne de Jésus. Mais en même temps, comment je vais grandir dans ma foi à travers ça? Bien, je vais toujours demeurer sur le même degré. Je vais toujours demeurer au même niveau parce que je ne laisserai pas l'espace à Dieu pour transformer ma foi, la faire grandir. Mais si je prends l'autre risque, le risque que Dieu me parle, qu'il puisse me bousculer ou même m'édifier, je prends un autre risque, le risque de grandir. Le risque de vivre près de Dieu et de laisser ses paroles vivre en moi. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait? hein, de ce que Jésus disait, notamment dans le Testament, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu à l'ennemi, lorsqu'il le tentait dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu lis ces paroles-là de Dieu dans sa Bible, à travers la personne de Jésus? Et lorsque tu les lis, eh bien, est-ce qu'on est prêt personnellement à laisser l'espace nécessaire pour manifester sa générosité envers notre propre cœur et amener notre cœur et notre âme à un autre niveau, de lui donner un upgrade, de lui donner d'une certaine manière une mise à jour et de lui permettre d'avancer un peu plus loin dans notre relation et de sentir cette intimité-là que Jésus lui-même exprimait envers Dieu lorsqu'il se priait souvent dans la nuit seul et qu'il était en communion avec son Père. Je ne peux pas être en communion parfaite et personnel avec Dieu si je ne porte pas une attention particulière à la générosité de sa parole en moi, pour mon cœur, et qu'il puisse devenir plus généreux qu'il l'est. Quel est le risque que l'on peut prendre à laisser la générosité des paroles de Dieu faire un chemin vers mon cœur? Eh bien, le seul risque que je prends, c'est d'être moi-même plus généreux, de ressembler un peu plus à mon Créateur et d'être près de lui. Oui, dans l'imperfection, bien sûr, mais toujours en progression. Et simplement, la perfection, eh bien, lorsque ce monde aura fini et qu'il y en aura un autre de créer, comme nous le dit la parole, un autre où est-ce que j'aurai plus jamais rien à craindre et que les paroles de Dieu vont devenir pour moi, bien, non seulement que je vais les vivre, mais que, d'une certaine manière, j'aurai plus jamais de défis. Pourquoi? Parce que je vais être dans un monde parfait que Dieu va avoir recréé. C'est là l'espoir que Dieu nous donne à travers sa parole. Un jour, toutes choses seront nouvelles. Jésus a prié pour nous. Il a prié que les paroles généreuses de Dieu produisent un effet généreux en nous, dans notre propre cœur. Mais là, ne s'arrête pas ce pourquoi prie Jésus. Jésus prie également que non seulement ça s'arrête à nous, mais que ça se répande également autour de nous. Et le deuxième point que l'on voit dans les prières de Jésus dans Jean 17, c'est que les paroles de Dieu puisse porter du fruit autour de moi. Dieu est beaucoup trop généreux pour que ça se limite à nos propres vies, ce qu'il a à nous donner. Il a un désir intense et immense que cette parole-là qu'il nous a donnée avec tant de générosité puisse se répandre autour de nous, dans mon quartier, avec mon voisinage, avec ma femme, avec mes enfants, avec des croyants, avec des non-croyants. Il a ce désir que le monde puisse recevoir les paroles qu'il a données, qu'il puisse les connaître et qu'éventuellement, il puisse y croire, comme on a vu dans le verset que Julie nous a lu tout à l'heure. Tournez avec moi au verset 15. Verset 15 de Jean 17. Voici pourquoi Jésus prie exactement. Jésus dit à son Père, en parlant de ses disciples, au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde », en parlant de ceux qui vont recevoir ces paroles, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jésus ici parle d'une autre forme de risque. Si je reçois les paroles généreuses de Dieu, il y a tout d'abord un risque. Le risque, c'est que je prenne ces paroles-là que Dieu nous a données généreusement et que je les garde pour moi. Que je m'isole. Que je garde ces paroles-là comme dans un coffre secret, dans un coffre trésor, et que finalement, ils sont tellement précieuses, ces paroles-là, que finalement, ben je les cache parce qu'ils sont trop précieuses, donc je ne veux pas les contaminer. Je ne veux pas qu'elles deviennent moins grandes, donc je vais les garder simplement, je vais me retirer du monde parce que le monde, lui, est mauvais, puis que si je partage ces paroles-là à un monde mauvais, bien, quelle va être leur réaction? Comment est-ce que ces paroles-là vont perdre de leur valeur? Il y a un risque ici de prendre les paroles de Dieu et de s'isoler du monde, de dire, « Seigneur, c'est comme ça que tu penses, parfait, je vais me retirer du monde qui ne te ressemble pas, je vais prendre ta pensée puis je vais en créer un autre dans ma vie ou est-ce que je vais m'isoler du monde qui existe pour pouvoir simplement vivre dans ta pensée. » Et beaucoup de chrétiens, même encore aujourd'hui, pensent comme ça, que la meilleure manière de garder la préciosité des paroles de Dieu, c'est de vivre en retrait du monde dans lequel nous sommes. Est-ce que c'est pour ça que Jésus prie ici? Pas du tout. Il ne prie pas qu'on vive en retrait du monde dans lequel on vit. Il prie qu'on soit préservé du mal qui est dans ce monde. Mais pourquoi est-ce que Jésus prie ici pour qu'on ne puisse pas être enlevé du monde dans lequel nous vivons, même si on ne lui ressemble pas, lorsque nous décidons de donner notre foi à la personne de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il demande au Père de ne pas nous retirer de ce monde-là? Mais pour que ce monde connaisse ces paroles que nous avons reçues et qu'elles produisent un effet autour de nous. Bien sûr, parfois, ça demande du discernement, ça demande, d'une certaine manière, oui, de la rigueur, mais aussi un aspect judicieux quand on parle de la parole à travers quelqu'un, que ce soit dans nos actions, dans nos mots. Si je parle des paroles de Dieu à mon voisin, je dois m'assurer que, OK, est-ce qu'il va comprendre ce que je lui dis, premièrement? Si j'ai à cœur un verset que je dois lui citer puis qu'il ne connaît pas, est-ce qu'il va bien le comprendre, ce verset-là? Est-ce que pour lui, ça va être juste une pierre d'achoppement ou ça va être quelque chose qui va susciter sa curiosité? Donc, oui, que la parole de Dieu soit amenée, parce que Dieu nous a généreusement donné sa parole, mais de réfléchir et de se demander, Seigneur, quelle est la chose que tu désires que je partage à cette personne-là qui ne te connaît pas? Qu'est-ce que je peux faire dans sa vie pour que tes paroles, il puisse les recevoir, qu'il puisse les connaître et qu'il puisse y croire éventuellement? Je vous donne un exemple très pratique. Il y a de cela quelques années, je travaillais en arpentage. Donc, avant d'aller dans le ministère, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine de la construction en arpentage. Et à chaque matin, je déjeunais avec mes collègues de travail. Ça me permettait d'être en contact avec eux et d'avoir des discussions, juste de nourrir un lien. Là, je vous le dis tout de suite, ces gars-là, c'est des vrais gars de chantier. Vous avez une image dans votre tête d'un gars de chantier, là? Imaginez le pire des stéréotypes que vous avez d'un gars de chantier, puis vous êtes en plein dedans, là. Vous êtes dans le mille, que ce soit dans le vocabulaire, les plaisanteries, les gestes que vous pouvez imaginer, c'était ça, là. J'étais là-dedans, à chaque matin. Quel est le risque que je prenais à ce moment-là à passer du temps avec ces gens-là qui étaient aussi différents de ma foi chrétienne? C'est quoi le risque que je prenais? Bien, le risque, c'est que je puisse me faire influencer. Que finalement, ce qu'ils pensent, ben, ça fasse un chemin dans moi, que je puisse faire des compromis avec ma pensée chrétienne, que finalement, ils puissent avoir un effet sur mon propre cœur. Je prenais une certaine forme de risque en parlant avec eux, c'est que j'en vienne à parler un peu comme eux. Il y avait un risque. Mais à chaque matin, avant d'aller déjeuner avec eux, je lisais juste une dizaine de versets dans le Nouveau Testament, puis ça me nourrissait. Ça me nourrissait pour dire, OK, gars, Seigneur, je sais que je prends un risque, là, mais je veux me nourrir de d'autres choses en même temps que je vais être dans le monde là, avec ces gens-là. Je veux me nourrir de ta pensée à toi pour contrer le mal que ça pourrait faire en moi. Donc, je vais me nourrir de toi, je vais me nourrir de ta pensée, je vais me nourrir de tes paroles. Mais j'avais un autre désir dans ma tête. C'est que les discussions que j'avais avec mes collègues de travail étaient surtout très superficielles. Ça touchait beaucoup, un peu ce qu'on peut voir, ce qu'on parle dans les journaux, de la manière que ça va au travail. Puis c'était des discussions, disons, assez limitées. Puis moi, mon rêve, mon désir, c'était vraiment qu'un jour, ces discussions-là puissent en venir un peu plus loin, spirituellement, que j'aie des occasions de présenter l'Évangile et de parler de Dieu, de ce que je découvrais dans la parole, puis à quel point ça me faisait du bien, puis que j'aie des occasions pour leur partager. Puis j'avais des craintes, sincèrement. Il y avait des risques qui me faisaient peur. Il y avait des risques qui me disaient, qu'est-ce que ces gens-là vont penser de moi? Est-ce que ça va changer mon climat de travail? Est-ce qu'ils vont m'en vouloir? Est-ce que je vais perdre un ami? Parce que ces gens-là, je les considérais comme des amis. Et ça l'aurait pu. Si je parle toujours de l'Évangile à chaque matin avec eux et qu'ils refusent de le recevoir, oui, ils finissent par me trouver fatigant. Ils peuvent en finir à me trouver harcelant même et perdre des amitiés auxquelles je tenais, avec lesquelles je me sentais bien. Alors, je demandais à Dieu, « Dieu, fais du ménage là-dedans. Aide-moi, à vivre dans le monde, mais en même temps de trouver ce désir-là d'être généreux avec les paroles que tu m'as si toi-même généreusement données. » Et un matin, j'ai pris la décision de laisser simplement dire à Dieu, « Regarde, voici le risque que je prends. C'est pas moi qui le prends, ce risque-là. C'est ta parole. C'est les paroles que tu m'as données. Je vais laisser tes paroles prendre elles-mêmes le risque que moi-même, j'ai peur. » Et un matin, pendant que la discussion était plutôt calme, j'ai simplement partagé aux gars, « Hey, les gars, vous ne savez pas ce que j'ai lu ce matin? » Il dit, « Quoi, Miguel? » Ça m'a tellement fait du bien. Il dit, « Ben quoi, Miguel? Nous autres aussi, là, peut-être ça nous ferait du bien. Okay? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as lu? » Il dit, j'ai lu ce matin que si Dieu est si généreux et bon pour nous, ce n'est pas parce que je suis moi-même généreux. Il est généreux dans la limite où moi-même, parfois, je peux être indigne de sa générosité. Dieu est bon pour moi, même si bien souvent, je ne le suis pas avec les gens qui m'entourent. Et ça m'a tellement fait du bien que Dieu était généreux puis que je n'avais pas à être généreux pour mériter la générosité de Dieu. Le calme plat pendant au moins 30 secondes, je vous dirais. Je ne les avais pas habitués à ça, comprenez-vous? Il y avait vraiment un malaise. Il y avait un malaise, mais dans le même temps, c'est comme du Seigneur, je reçois ce verset-là qui est généreux envers moi. Comment mon cœur ne peut pas être généreux lui-même envers cette générosité-là que j'ai donnée? Et oui, il y a eu un calme plat pendant à peu près 30 secondes et finalement, le groupe a fait semblant qu'il n'avait pas entendu ce que je venais de dire, puis on passait à d'autres discussions. Mais pendant la journée, il y a au moins 2-3 gars de mes collègues qui sont venus me voir et disent « Hey Miguel, ça m'a fait du bien ce que tu as dit. » Ça m'a fait du bien. Je n'osais pas le dire dans le groupe là, pour ne pas passer pour un innocent ou un quelconque illuminé, mais ça m'a fait du bien. Puis moi aussi, il me semble que ça me rejoint. Moi aussi, je trouve que la vie est généreuse envers moi, puis que Dieu est généreux envers moi, même si parfois je ne le suis pas. Je dis, où est-ce que tu as lu ça? J'aimerais ça qu'on en reparle. Wow! Dieu avait suscité une générosité envers moi de me créer lui-même des occasions de pouvoir parler de sa générosité, mais en prenant un risque. Puis d'une certaine manière, c'est même plus moi qui le prenais le risque, c'était simplement la confiance en sa parole. La confiance dans une parole où je ne suis pas digne de la bonté qu'il me donne, mais elle est à moi et je peux compter sur elle, même si Dieu ne peut pas compter toujours sur ma bonté à moi. Les gens se reconnaissaient là-dedans, puis le risque que je prenais, il est comme devenu insignifiant. J'avais plus peur de ce que les gens penseraient de moi ou de perdre mon climat de travail qui me semblait bien en parlant de Dieu parce que ce que je gagnais au bout du compte, c'était beaucoup plus grand que le risque que je prenais. Et la question qu'on peut se poser, c'est personnellement, en tant que croyant, est-ce que j'ai ce courage-là, ce discernement-là, de pouvoir partager les paroles de Dieu d'une manière aussi généreuse que lui-même les a données? C'est ça pourquoi Jésus prie ici. Il prie que le monde puisse connaître, recevoir et croire éventuellement dans ces paroles-là. Mais comment ne pourront-ils y croire s'il n'y a personne pour les partager? Que ce soit en action, que ce soit en parole, que ce soit à travers un proverbe qu'on lit ou souvent qu'on ne cite pas. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, je vais à un dîner communautaire. Il y a une personne qui commence à me parler du Dalai Lama, tout ça. Puis moi, je suis intéressé. Là. Je ne connais pas tant que ça, le Dalai Lama. Fait que je l'écoute. Puis, elle me dit, finalement, ce qu'il dit, le Dalai Lama, là, c'est pas compliqué, Miguel. Il veut que tu deviennes une meilleure personne. Puis il t'apprend comment tu peux devenir une meilleure personne. Ah, OK. Donc, je dis, finalement, il y a quelqu'un qui a parlé de ça bien avant le Dalai Lama. Ah oui, qui ça? Bien, Jésus. Jésus, à la base, il a donné sa vie, oui, pour le fardeau de nos péchés, mais il a aussi donné sa vie pour notre sanctification et qu'on puisse être généreux autour de nous. Là, la personne dit, comme, je vois un gros point d'interrogation dans son visage, puis elle me dit, hey, ça, il faut qu'on reparle de ça. Ça m'intéresse. Fine, n'importe quand. Donc, on n'est pas obligé de citer, « Ah bien là, sais-tu ce que dit? Mais Dalai Lama, il n'a pas raison, puis la Bible dit plutôt ça. » Comment qu'elle aurait réagi, la personne? Bien, probablement qu'elle l'aurait su comme une tonne de briques, dans le sens que j'y aurais peut-être blessé. Alors, il y a une manière de partager la parole de Dieu avec un discernement et de s'adapter à la personne à qui on parle. Il y a des personnes qui ont besoin parfois d'un peu plus de, comment je pourrais dire ça? Un peu plus de manière un peu plus rigoureuse des paroles de Dieu, surtout des croyants. Des fois, on a besoin de se faire édifier rigoureusement dans notre foi, dans des choses qu'on fait. Mais à la base, si Dieu nous a généreusement donné sa parole, c'est que l'on puisse généreusement, nous aussi, la partager. Est-ce que c'est un souci pour nous, en tant qu'Église de l'espoir, de partager les paroles que Dieu nous a données? Hein, on a fait une espèce de pacte ensemble au début de l'année. Vous vous souvenez, on avait pris deux valeurs à laquelle on voulait ressembler. On voulait, d'une certaine manière, devenir une église qui forme d'autres disciples. Et vous vous souvenez qu'une des phrases sur le fameux petit carton brun, puis on avait dit, « OK, Seigneur, cette année, j'aimerais ça que tu travailles ça dans ma vie. » Et on avait pris un engagement personnel, « Seigneur, je veux grandir dans ces trois domaines-là. » Et un des domaines qu'on voulait grandir dans notre vie en tant qu'Église, c'est qu'on veut apprendre à présenter Jésus avec nos mots et lui ressembler dans nos vies de la manière la plus incroyable possible. On veut qu'il y ait une progression, une amélioration dans nos vies, dans notre manière dont on présente Jésus aux gens qui sont autour de nous et dans la manière dont on lui ressemble. Donc, ça touche nos actions, mais aussi nos paroles. Parce que si je fais du bien autour de moi, mais que je ne parle jamais de Dieu, bien, c'est quoi la différence entre moi et Québec solidaire à ce moment-là? Il n'y en a pas! Il n'y en a aucune! Écoutez-moi bien, là, je ne suis vraiment pas contre Québec solidaire. Au contraire, je crois qu'ils ont des belles valeurs. Mais d'une certaine manière, notre but n'est pas simplement de changer le monde par la bonté qu'on peut lui donner. Notre monde a beaucoup plus de besoins que notre bonté. Ils ont besoin de la parole de Dieu qui vont l'amener à recevoir Christ, connaître Christ et croire dans Christ, qui peut être un élément de générosité dans leur vie. Et là, notre bonté peut faire la différence. Parce que les gens voient, et la suite du passage nous le dit, c'est que si Dieu s'attend que la générosité de ses paroles fasse une œuvre en nous et autour de nous, eh bien, cela ne peut pas éliminer le fait que ça se fasse également par nous. Si Dieu peut faire une œuvre dans le monde dans lequel nous vivons, et il va en faire une, nous sommes, chacun d'entre nous, directement impliqués. Regardez par exemple ce que nous dit le verset 17 du chapitre 17 de Jean. Verset 17. Où est-ce que Jésus prie? Jésus prie en faveur de ses disciples et voici ce qu'il demande à son Père. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Ça, c'est nous, ça. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La prière ici, c'est que les paroles que Dieu nous a généreusement données puissent nous mettre à part, qu'elles puissent nous engager, nous nettoyer, nous purifier, nous sanctifier. Dans quel but? Que le monde croit que Jésus-Christ vient de Dieu et qu'on demeure près de Dieu. Ici, d'une certaine manière, ce que Jésus prie en disant « sanctifie-les par la vérité », ce qu'il dit aux croyants, c'est qu'il y a un risque. Si je reçois les paroles de Dieu, il y a le risque que je demeure indifférent à ce avec quoi j'entre en contact. Qu'il y a un risque que ce que je lis, ce que je vois à propos de Jésus ne produise pas en moi un effet et que par ricochet, je puisse également devenir généreux, que je viens simplement un récipiendaire de la générosité de Dieu, mais que les autres autour de moi, eh bien, regardez, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce soit moi qui soit la générosité de Dieu, c'est que moi, j'en profite. Est-ce que vous voyez la générosité des paroles de Dieu comme ça? Que c'est seulement à vous d'en profiter. Parce que Jésus ici prie exactement dans le sens contraire. Il prie que l'on soit engagé dans cette vérité. Que ce soit en action ou par la parole, Jésus prie que chacun de ses disciples puisse avoir une œuvre de générosité et qu'il soit engagé dans cette œuvre-là, autour de nous. Bien sûr avec des non-croyants, mais également avec des croyants. Ce que j'ai vécu récemment, avec ma commotion cérébrale, m'a beaucoup, beaucoup édifié à ce sujet-là. J'ai vu ma femme être un modèle pour moi. La première semaine, je faisais deux siestes avant-midi, deux siestes après-midi, j'en avais vraiment besoin, j'étais littéralement sonné. J'ai vu ma femme s'occuper de tous les devoirs des enfants, j'ai vu ma femme s'occuper de tous les repas, de toutes les vaisselles, puis de tout faire dans la maison avec une rigueur exemplaire, mais ce qui m'a littéralement sanctifié là, et édifié, c'était son attitude. Elle me rappelait constamment les promesses de Dieu. Elle me rappelait constamment les paroles de Dieu. Au lieu de dire, écoute, Miguel, tu pourrais faire un effort, là, ça fait une heure que tu fais une sieste, tu pourrais peut-être te lever puis m'aider à faire la vaisselle, là, j'ai besoin d'aide. Jamais qu'elle a dit ça. Jamais qu'elle me dit, écoute, j'ai de la misère, là, tu t'occuperais-tu des devoirs de Florence? Parce que là, c'est, je suis pris avec Elliot, puis tu m'aiderais-tu avec les bains? Il me semble que j'ai besoin de toi. Jamais elle a eu cette attitude-là. Pourquoi? Elle vivait la générosité de Dieu. Elle vivait le Dieu qui lui avait encore prêté son mari, parce que ça aurait pu être plus grave, l'accident, et dire, Seigneur, j'avoue que tu es un être généreux, et comment moi-même je ne peux pas être généreux quand toi-même tu l'as été tant vers moi. Au lieu de se plaindre de la situation, elle s'en est servie pour exprimer de la générosité envers moi. Ça m'a tellement édifié. Ça l'a élevé mon âme, ça m'a rapproché de Dieu. Et comprenez-vous à quel point maintenant j'ai envie d'être généreux? Parce que je l'ai vécu, cette générosité-là, même pas celle de Dieu, mais celle d'un être qui a décidé de se faire sanctifier par la parole pour en sanctifier d'autres. Quel est l'endroit dans vos vies où vous pouvez faire cette œuvre-là de donner les paroles de Dieu à quelqu'un qui en a besoin? Oui, ça peut être en action, mais ça peut être simplement par une pensée, par une promesse que Dieu a faite à un croyant ou à un non-croyant, de lui donner un espoir que la vie peut se vivre autrement que dans déception et de l'amertume. Notre monde a besoin que les paroles de Dieu nous a données produisent un effet en nous, autour de nous et par nous. Est-ce que vous désirez vivre cette générosité par laquelle Dieu vous a amené à lui? L'ancien premier ministre britannique, on va terminer là-dessus, M. Winston Churchill. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Winston Churchill ici? Aucune main se lève. Même les 16-25 savent c'est qui Winston Churchill? Ah, ça me surprend, ça. Bravo pour votre histoire. Alors, ancien premier ministre britannique qui était premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, disait ceci. Voici ce que disait M. Churchill. On peut passer à l'étape prochaine, s'il vous plaît, si c'est possible. On gagne notre vie avec ce qu'on reçoit. Et qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les paroles de Dieu. Donc, les paroles de Dieu nous aident, d'une certaine manière, à faire notre place dans la vie, à trouver qu'est-ce que Dieu a fait de moi, comment je peux m'épanouir dans le monde dans lequel je vis avec ce que j'ai reçu. Parfait, je peux gagner ma vie comme ça. Mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie? Voulez-vous la gagner? Ou est-ce que vous voulez la bâtir? Est-ce que vous voulez gagner votre vie pour vous-même ou si vous voulez bâtir quelque chose qui vous dépasse vous-même et qui fasse une œuvre en vous, autour de nous et par vous? Eh bien, ce que Jésus dit ici ressemble beaucoup à ce que M. Churchill vient de dire. La manière dont on bâtit notre vie. Et ce que Jésus prie ici, c'est qu'on puisse bâtir le royaume de Dieu avec ce que l'on donne. Notre temps, bien sûr, notre énergie, nos dons matériels, notre écoute, mais également donner ces paroles de Dieu qui peuvent faire une œuvre incroyable en nous. Ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse prier ensemble dans cette perspective. Qu'on puisse prier le Seigneur qu'il nous donne le courage, mais également le discernement d'évaluer les risques lorsqu'on décide de donner. Et de voir si ce risque-là vaut vraiment la peine d'être vécu. Est-ce que le risque d'être généreux avec la générosité qu'on a reçue vaut vraiment la peine? Je crois que la réponse n'est pas longue à donner. Tout à fait. On ne peut pas rester des âmes, des ancres qui aspirent la générosité de Dieu sans que ça ait un effet autour de nous. Parce que Dieu n'a pas été généreux pour ça. Il a été généreux pour que ça produise un effet en nous, autour de nous et par nous. Prions-le ce matin que sa grande générosité puisse faire cette œuvre en nous et que dans notre ville, dans notre communauté puisse voir cette générosité, en être aspirée et qu'elle puisse recevoir les paroles de Dieu, les connaître et éventuellement y croire. Oui, par la générosité de Dieu premièrement, mais également la nôtre, que nous devions des acteurs vivants pour cette générosité que Dieu nous a donnée dans ses paroles. Prions quelques instants. Seigneur éternel, comment rester indifférent à toute la grâce que tu nous as donnée? Comment rester indifférent au souffle de vie que tu as mis en nous? Comment rester indifférent à ce Fils si précieux, Dieu lui-même, que tu nous as donné afin que sa vie puisse nous réconcilier avec toi, mais qu'elle puisse permettre au monde d'être réconcilié avec toi, le Créateur de l'univers. Oh Seigneur, utilise-nous, fais de nous des acteurs de ta générosité, que ce ne soit pas simplement quelque chose qui mette l'emphase sur nous-mêmes, mais tout d'abord sur toi-même en tant qu'élément suprême de générosité. Merci pour cette matinée de l'Action de grâce où nous pouvons te remercier pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as fait de nous, mais que là ne s'arrête pas notre action de grâce pour toi. Que cette action de grâce puisse, Seigneur, être déposée dans notre cœur afin d'être nous-mêmes une action de grâce pour quelqu'un d'autre autour de moi. Ma femme qui a besoin d'être encouragée. Mon enfant qui a besoin de se sentir aimé. Mon voisin qui a besoin de se sentir accepté. Notre ville qui a besoin de te voir dans toute ta splendeur, même si parfois elle te rejette. Apprends-nous, Seigneur, à vivre judicieusement dans le monde dans lequel nous vivons, afin que tes paroles puissent être aussi généreusement données par nous qu'elles nous l'ont été données par ton Fils. Suscite ce souci en nous, cette préoccupation, que nous puissions voir tes paroles comme la source de toute générosité pour nous et que nous puissions les utiliser pour toi, pour ton royaume, pour ta grandeur. Merci pour tout. Amen.